Radio 6-9.
Tous ensemble pour le climat.
Tous ensemble pour le climat.
Bonjour, je m'appelle Joachim. Je suis accompagné de ma collègue Camille et nous vous souhaitons la bienvenue sur Radio 6-9 à l'écoute de l'émission Tous ensemble pour le climat. Cette émission est le résultat d'un atelier radio d'éducation aux médias et à l'information mené en partenariat entre le CSND et le Radio Calade. Dans cette émission, nous allons vous parler du dérèglement climatique et de la Convention citoyenne pour le climat.
La Convention citoyenne pour le climat a été créée à l'initiative du président de la République en octobre 2019 et ses travaux ont pris fin en juin 2020.
150 citoyens ont été sélectionnés au hasard par tirage au sort, mais en respectant les critères permettant d'obtenir un échantillon représentatif de la population française.
La méthode de travail de cette convention était de faire participer ses membres au débat, de faire des choix, d'élaborer des mesures et de faire des propositions.
L'objectif final était que ces propositions soient destinées à réduire les effets du réchauffement climatique et d'ici 2030, de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre.
149 mesures allant dans ce sens ont été proposées par les membres de la convention. Selon le gouvernement, sur ces 149 mesures proposées, 71 sont en cours de mise en œuvre, 3 mesures ont été définitivement écartées et 75 mesures auraient déjà été mises en œuvre.
Mais selon les membres de la convention, 13 mesures ont été appliquées, 25 mesures seulement partiellement reprises, 45 mesures sont en cours de débat, 24 mesures sont en danger et enfin, 42 mesures sont d'ores et déjà définitivement abandonnées. Les chiffres et les sentiments sont très divergents.
Le président de la République et le gouvernement s'étaient engagés, lors de l'annonce de la création de cette convention, à ce que ces propositions issues de la convention soient soumises sans filtre, c'est-à-dire telles qu'elles soient, à projet de loi, soit à application réglementaire directe, soit à référendum. Les résultats détaillés précédemment montrent que l'on est loin du sans filtre.
Déçus par le traitement réservé à leurs propositions, les membres de la Convention citoyenne pour le climat œuvrent à faire avancer différemment la cause de l'environnement et les mesures issues de la convention.
Ils se sont donc regroupés en associations, en partenariat avec d'autres associations et ONG pour suivre le traitement réservé à leurs propositions et informer le public. Vous pouvez les retrouver sur le site sansfiltre.les150.fr.
Pour illustrer le thème de notre émission Tous ensemble pour le climat, nous vous proposons d'écouter le bruit des tempêtes et des cyclones avec le titre Premier pas du chanteur Nekfeu.
11h du matin, Nouvelle-Orléans, je déambule solo dans le quartier de Trémé. Les nouvelles viennent d'annoncer l'ouragan, l'air est lourd, le ciel est noir, interdit de traîner. Le couvre-feu est prévu pour 19h, mais les gens d'ici n'ont pas trop l'air inquiets. Ils disent avoir connu le pire avec Katrina et les crimes pour savoir qui contrôle leur inté. Ils font la fête et me proposent de trinquer, y'a de la bonne humeur à profusion. Les musiciens s'amusent en improvisant, tous les voisins se fournissent en provisions. Complètement prêt, joue de la trompette en pleine tempête. Et le journal s'était peut-être trompé, mais je cours de la tête aux pieds trempés. L'ouragan est passé à quelques miles, les zones autour du port sont inondées. Loin de mes terres, tumeur sentimentale, y'a pas que la peur que j'ai senti monter. Loin de mes terres, je n'ai pensé qu'au mien, je n'ai que leurs souvenirs et leurs invocations. Étrange comme on ressent des pulsions d'amour au contact de la mort ou son évocation. L'Européen oublie trop souvent qu'il n'est rien face à la nature qui reprend ses droits. T'en as de pensées qui tournent dans ma tête, j'en attrape une au vol et je repense à toi.
Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre, et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas, et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre, et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas.
11h du matin dans Tokyo, je me perds seul. C'est une autre énergie que je perçois. Est-ce pour ça que j'aime trop cette ville, ou bien parce qu'ici je ne suis personne? Ici tu n'es pas là, mais ton souvenir me suit où que j'aille, et ça me fait mal. Rien d'étonnant qu'en japonais l'amour se dise aïe. Faisons la guerre pour être trempé, faisons notre vie sans suspicion. Hier la terre a tremblé, secouant la ville en suspension. Le séisme était de faible magnitude, mais assez pour me rappeler qu'on partira. Ça serait dommage de finir sur une dispute, si je pars avant, est-ce que tu compatiras? L'Européen oublie trop souvent qu'il n'est rien face à la nature qui reprend ses droits. Collision de pensée qui secoue ma tête, j'en attrape une au sol et je repense à toi.
Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre? Et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas? Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre? Et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas? Ça voudrait dire qu'on est tous liés. J'ai l'impression qu'on est tous liés. Ça voudrait dire qu'on est tous liés. J'ai l'impression qu'on est tous liés.
J'ai l'impression qu'on est tous liés. Et une infinité de voix discordantes qui deviennent juste une fois chantées en chœur.
Radio 6-9.
Tous ensemble pour le climat.
Dans notre atelier radio avec Radio Calade, pour parler de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons interviewé Élodie Perrichon de l'association L'Effet Papillon de Belleville-sur-Saône. À cause du Covid, cette interview a été réalisée par téléphone. Elle nous présente son parcours, son association et les actions menées pour la protection de l'environnement et pour la solidarité.
Toujours dans le cadre de l'atelier d'éducation aux médias avec Radio Calade, nous recevons maintenant Élodie Perrichon de l'association L'Effet Papillon de Belleville. Bonjour Élodie, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Bonjour les élèves. Alors je me présente, je suis Élodie Perrichon, je suis mère de famille, entrepreneuse, conseillère en développement local, je suis née dans le Beaujolais, citoyenne engagée, militante même, citoyenne engagée pour son territoire à travers des mouvements citoyens, des marches pour le climat, des campagnes politiques et puis je suis actrice associative aussi.
Et maintenant, l'association L'Effet Papillon, pourquoi ce nom et comment fonctionne-t-elle ?
Alors l'association L'Effet Papillon, je l'ai fondée en mars 2017. C'est une association de loi 1901, c'est aussi une marque déposée, L'Effet Papillon, qui a trois objectifs. Un objectif solidaire, soulager le budget des familles. Un objectif écologique, promouvoir le réemploi, l'anti-gaspillage. Un objectif citoyen, parce qu'elle fonctionne avec l'intelligence collective. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé l'effet papillon ? Eh bien, c'est pour reprendre une phrase d'Edouard Lorenz, c'est la théorie du chaos. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? Eh bien, moi, je crois que cette phrase, qui est applicable au climat, par exemple, on peut l'appliquer à l'humain aussi, quand il est possible de nourrir un égrégore de solidarité. Eh bien, les gens, par une simple action, un simple geste, ils peuvent réaliser de grandes actions, dont parfois ils n'ont même pas idée de la portée.
Parlez-nous de votre implication concernant l'écologie. Comment cela a-t-il commencé et pourquoi ?
Alors, le pourquoi, parce que je suis mère de famille, tout simplement préoccupée par l'avenir de mes enfants, de tous les enfants, l'avenir des générations futures. Là encore une citation, celui qui plante des arbres tout en sachant qu'il ne pourra profiter de leur ombre, il a compris le sens de la vie. Je crois que c'est quelque chose que tous les parents de cette planète peuvent comprendre. Il faut semer pour demain des idées, des modèles, à travers des actions associatives, des actions citoyennes, des actions politiques parfois, des potagers pédagogiques, des marches pour le climat, des actions citoyennes, la participation à la convention climat, la convention des 100, des émissions radio portées sur l'écologie, des initiatives citoyennes comme moi je fais partie du Shift Project, de tas de choses. Il faut s'impliquer, c'est important. En tant que parent, on a un devoir pour l'avenir de nos enfants.
Quelles sont aujourd'hui vos activités associatives ? Localement au sein de l'effet papillon.
D'accord. Eh bien, l'effet papillon, c'est des boutiques gratuites, donc pour promouvoir le réemploi. C'est la boutique gratuite de l'effet papillon qui est basée à Belleville en Beaujolais. 5 articles par personne tous les 15 jours. Une règle quantitative et limitative dans le temps. Par contre, c'est gratuit. On ne demande pas les conditions de ressources aux gens. Et elle fonctionne grâce à des collectes régulières pendant les horaires d'ouverture, donc de l'intelligence collective. On fait aussi des distributions alimentaires occasionnelles, anti-gaspillage. On a aussi des potagers pédagogiques pour partager le savoir autour des semences, de la culture, c'est très important, pour viser, enfin en tout cas pour appréhender les bases de l'autonomie alimentaire. On fait aussi des gratiférias, des marchés gratuits pour promouvoir l'anti-gaspillage et la solidarité. Et puis c'est aussi des conférences, des projections ciné-plein air, puisque j'ai aussi une autre association qui s'appelle Éducation Populaire qui est venue se greffer à l'effet papillon. Et enfin, l'effet papillon, c'est aussi des ateliers découvertes et recherches pour promouvoir l'initiative.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, les gens sont plus sensibilisés sur les questions liées à la protection de l'environnement et comment cela se concrétise-t-il ?
Alors, je pense que les gens sont impactés par le changement climatique, donc la protection de l'environnement. Ils le sont directement. Oui, les gens sont conscients en fait de l'importance de la préservation de l'environnement parce que ça les impacte aujourd'hui dans leur vie courante. On voit bien aujourd'hui l'impact du changement climatique sur les cultures. On a des grosses périodes de grêle qui mettent en menace certaines cultures. On a les saisons qui sont décalées. Qui dit bouleversement sur les cultures dit bouleversement sur l'alimentation. On ne s'alimente plus aujourd'hui comme on s'alimentait il y a 20 ou 30 ans. Et puis du coup, bah, l'alimentation, ça impacte le pouvoir d'achat. Certains produits sont plus chers que d'autres, sont plus, on en trouve moins facilement ou en plus petite quantité. Du coup, pouvoir d'achat, mode de vie, mode de consommation. Donc oui, je pense que les citoyens sont touchés de plein fouet par le changement climatique et que de toute façon, c'est une préoccupation qui touche tous les foyers, sur tous les domaines.
Parlons maintenant de la Convention pour le climat. Que pensez-vous de la mise en place et du déroulement de cette convention ?
Alors, la Convention pour le climat, bah, c'est un bel exemple de participation citoyenne. Elle a été mise en place en avril 2019. La Convention pour le climat, c'était une expérience démocratique qui a réuni, donc, comme vous le savez, 150 citoyens qui s'expriment, qui composent et qui ont fait des propositions pour mettre en place des lois. Donc, sur le fond, je trouve que c'était inédit en France et c'était une belle expérience, un bon début, une petite graine qu'on a semée pour la consultation citoyenne et la participation citoyenne. Donc sur le fond, une belle initiative, une bonne idée.
Quel est votre avis sur les 149 propositions finales des membres de cette convention ?
Alors voilà, si ça a été une bonne graine pour la participation citoyenne et la consultation citoyenne, elle a eu un effet moindre sur le plan national. Par contre, cette petite graine a germé et elle s'est reproduite. Et sur le plan local, sur le plan des territoires, elle a quand même fait germer des idées. Aujourd'hui, par exemple, on a la ville de Grenoble qui lance sa convention citoyenne climat avec des objectifs pour 2050. Donc, ça a été repris par les territoires. Dans ce sens, c'est une excellente chose.
De même, comment jugez-vous la réponse du gouvernement par rapport aux propositions retenues et celles non retenues ?
Alors si c'est le gouvernement qui a lancé cette initiative en vue de la consultation et la participation citoyenne, rappelons-le, c'était juste avant les élections européennes quand même, donc il y avait peut-être un petit côté politique. Évidemment, comme tout le monde, je suis déçue par les propositions qui ont été rejetées, notamment le fait d'inscrire l'urgence climatique dans la Constitution. Voilà, mais après, il faut quand même regarder un petit peu de près. Il y a eu 140, le 21 juin, ça a été mis sur la table du président. 146 propositions reprises, 28 écartées. Bon, c'est quand même pas trop mal. Ensuite, là, il y a 65 articles qui sont passés devant le Conseil des ministres qui ont repris 146 mesures. C'est pas trop mal non plus. Encore une fois, ce qui est dommage, ben, c'est le fait que la Constitution n'est pas ancrée l'urgence climatique. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça aurait pu faire effet levier sur tous les ministères. Ça aurait pu faire de l'urgence climatique une préoccupation saisie par tout le monde, par tous les partis politiques. Bon voilà, je trouve ça dommage que pour une histoire de fonctionnement des institutions, on ait oublié, on ait mis de côté le fond du fond et l'urgence climatique, voilà, qui va nous impacter tous demain, qui commence déjà à nous impacter tous. C'est un déni, c'est une forme de déni et c'est vraiment dommage. On a loupé le coche. Les politiques ont loupé le coche.
Selon vous, quelles seraient localement les actions prioritaires à mener pour l'amélioration de la lutte contre le réchauffement climatique ?
Alors ça, c'est une excellente question. Et je pense que là, il faut mettre en avant les citoyens. Il faut agir localement. Voilà, il faut agir localement puisque c'est une question qui nous impacte tous. C'est une réalité qu'on se prend tous de plein fouet comme ça. Donc localement, oui, je pense qu'il faut viser la participation citoyenne, le levier citoyen, les territoires. Et il faut que les citoyens s'engagent politiquement, conseiller municipal, maire, département, régional. Il faut s'engager pour soutenir la parole citoyenne, justement. Pour reprendre les propositions, il y en a quelques-unes qui me semblaient assez intéressantes. Créer une nouvelle gouvernance de la transition des emplois et compétences au niveau national et régional. Voilà, encore une fois, la force de s'impliquer pour les citoyens, c'est d'être un réel porte-voix et de pouvoir mettre en place ces mesures, améliorer la gouvernance territoriale et régionale, donner un petit peu plus d'importance à tout ce qui est mis en place localement, la participation des citoyens, des entreprises locales, des associations locales, des collectivités locales aux projets énergie renouvelable, les fameuses ENR, contraindre les propriétaires occupants et bailleurs à rénover de manière globale, ça aussi c'est très important, et puis prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements des zones commerciales périurbaines qui sont très consommatrices d'espace. Il y a aussi protéger évidemment tous les espaces naturels, hein, sauvegarder nos forêts, assurer une gestion durable des forêts privées et publiques, et puis créer des ceintures maraîchères autour des pôles, et toujours tout en haut, ça ce sera possible qu'une fois que l'urgence climatique aura été ancrée dans la Constitution. Je vais revenir sur une petite chose aussi qui me paraît très importante, c'est renégocier le CETA, tous les traités internationaux, en se basant sur les accords climat, les accords de Paris.
Avez-vous un autre point que vous souhaiteriez évoquer sur ce sujet?
Ben, peut-être une phrase, une simple phrase, hein, qui s'appelle, moi je dirais dégonfler les grandes villes. Il faut arrêter de penser en plus haut et puis plus grand à l'intérieur et penser plus agréable et plus vivable à l'extérieur. Peut-être privilégier le bonheur collectif au plaisir personnel. Voilà.
Si nos auditeurs veulent mieux vous connaître, comment vous contacter?
Ok. Eh bien, écoutez, vous pouvez me contacter par le biais de l'association L'Effet Papillon si vous êtes intéressé pour faire du bénévolat ou proposer des idées même hein, que l'association peut réaliser. L'Effet Papillon, elle a un vaste champ d'action. Vous pouvez aussi me contacter pour vous impliquer dans des mouvements citoyens, mouvement Bleu Blanc Zèbre, The Shift Project, la Convention Climat avec les 100, hein, la Convention des fameux 100. Et puis voilà, vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux, par internet. Je crois que mes coordonnées sont assez faciles à trouver.
Merci de toutes ces informations. Nous vous remercions de nous avoir accordé de votre temps.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour m'exprimer à vos côtés.
Au revoir.
Au revoir.
Radio 6-9.
Tous ensemble pour le climat.
Nous allons à présent vous faire écouter le morceau « Music Sound Better With You » du groupe Stardust.
Ce groupe dans la move French Touch de Daft Punk a été créé spécialement pour cet unique morceau, produit en 1998. Bonne écoute.
Ensemble pour le climat.
Bonjour, nous allons maintenant écouter l'interview d'André Abeillon, qui est membre de l'association Alterninfo de Châtel-d'Azergues. Il va nous présenter son association et les actions qu'elle mène pour la protection de l'environnement, et bien sûr, nous donner son sentiment sur la Convention citoyenne pour le climat.
Bonjour, nous sommes des élèves du lycée de Notre-Dame et participons à un atelier radio d'éducation aux médias et à l'information. Le thème retenu est la Convention citoyenne pour le climat. Nous allons en parler avec vous, mais tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ?
Donc bonjour, André Abeillon, je suis le président d'une association qui s'appelle Alterninfo, qui a été créée en 1990. Cette association, quand elle a été créée, son but principal, c'était de diffuser gratuitement de l'information. Donc on avait choisi nos domaines, c'était l'écologie, le tiers-monde, la non-violence, les droits de l'homme, les droits humains et la citoyenneté. À l'époque, ces sujets n'étaient traités par personne dans le secteur de la vallée d'Azergues. Et nous étions, pour nos détracteurs, nous étions de doux rêveurs.
Vous êtes membre de l'association Alterninfo. Racontez-nous l'histoire et les actions de cette association. Et tout d'abord, pourquoi ce nom ?
Alors pourquoi ce nom ? Il veut dire... Alors c'est moi qui l'ai créé, hein, je suis le président fondateur et j'en suis toujours le président au bout de 32 ans. Parce que personne n'a voulu prendre la relève. Et ça veut dire des informations alternatives dans les domaines dans lesquels je vous ai parlé. Écologie, tiers-monde, non-violence et droits de l'homme et ainsi de suite. Voilà.
Pour vous, la question de l'environnement se réduit-elle seulement à la protection de la nature ?
Non, non, non. Elle se décline dans tous les domaines que nous avons abordés et que nous continuons à aborder. Et pour moi, elle est éminemment politique, au sens autogestion de la cité.
Depuis quand date votre engagement pour la protection de l'environnement et pourquoi ?
Moi, je suis un homme de mai 68 et de la libération des esprits. Mes lectures, j'en ai ressorti quelques-unes pour vous les citer. Jean d'Horst, La nature dénaturée, Pellerin, La planète en danger, Bombard, Naufrage et Voltaire. Volontaire, toutes ces lectures m'ont amené à comprendre que je ne participerai pas au monde dans lequel je vivais déjà il y a 30 ans.
Pourquoi la protection de l'environnement concerne-t-elle tout le monde ou devrait concerner tout le monde ?
Alors ça, je l'ai écrit, parce que la protection de l'environnement, c'est la vie, avec une question qui m'a toujours habité. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants et à nos petits-enfants ? Je suis de profession éducateur et éducateur de jeunes enfants. Mon action quotidienne, c'était d'apprendre aux enfants à aimer le vivant, à aimer la nature et à s'émerveiller du petit et du beau. Apprendre à vivre ensemble et à coopérer. Et puis surtout, à mettre de l'éthique sur cette terre et abandonner la morale. Je fais bien la distinction entre les deux. Je vous laisserai réfléchir.
Qu'avez-vous pensé de la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat ?
Alors pour moi, elle avait un objectif qui était noble et qui était impérieux, car elle avait pour mandat de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse au moins de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90, hein, à partir en 2030 par rapport à 90, dans un esprit de justice sociale. Et ça, on pouvait pas trouver mieux. Pour nous qui, depuis une trentaine d'années, on naviguait pour essayer de faire comprendre dans la région ce que c'était que de respecter tout ce qui était devant nous, c'était le summum. On arrivait au summum de ce que l'on voulait obtenir.
Avez-vous suivi son déroulement et qu'en avez-vous pensé ?
Oui, j'ai suivi ça d'un peu loin parce que je n'étais pas concerné. J'ai pas été tiré au sort, j'ai pas fait partie des 150 personnes tirées au sort. Mais très honnêtement, j'aurais pas fait mieux. Ce qui est sorti de cette convention. D'ailleurs, je vous rappelle que cette convention, elle vient suite au grand débat. Nous, ce grand débat, le grand débat qui avait été organisé, qui avait été demandé par Macron, on l'a organisé notre village contre l'avis de notre maire, mais on l'a organisé et il en était sorti aussi ce genre de dispositions qui étaient quand même très très importantes.
Y avez-vous participé, y compris localement ? Si oui, comment ?
Alors, est-ce qu'on y a participé? Nous, on estime que depuis 30 ans, on a participé à tout ça. On a beaucoup prêché dans le désert. Faut pas oublier qu'on est dans un endroit très conservateur. Je le dis pour tous les maires du coin qui me connaissent, les élus du coin qui me connaissent, on est dans un système très conservateur où pour faire avancer quelque chose, il faut vraiment mettre les pieds dans la porte. Je peux vous citer 2-3 choses qu'on a faites, nous, et c'est pour ça que je dis qu'on a participé depuis le début. Il y a 33 ans qu'on organise une foire bio sur Chazé d'Azergues pour informer sur une autre agriculture, pour informer sur d'autres modes de déplacement, pour informer sur des soins alternatifs et des productions d'énergie renouvelable. On a été pris pour des imbéciles, pour des doux rêveurs. Or, aujourd'hui, et vous qui êtes jeunes, vous voyez, les doux rêveurs, c'est les autres en face. C'est ceux qui n'ont jamais voulu rien faire. On a fait des conférences, débats, on a organisé avec les 400 coups un certain nombre de festivals de films. On a créé le marché biologique en 91 de Lausanne. On a promu les produits bio, je ne vais pas vous tenir toute l'après-midi, les produits bio à la cantine dans notre village et ainsi de suite. Voilà, des actions qu'on a menées et qui font partie de tout ce qu'on retrouve dans la convention.
Auriez-vous apporté d'autres propositions à cette convention ?
Oui, le rôle du politique et de sa maîtrise par rapport à un nombre de mandats réduit. Les autres citoyens seraient bien plus concernés. Quand on voit aujourd'hui que des hommes politiques restent 40 ans, 50 ans, 60 ans, je peux vous donner des noms, dans la région, je les connais tous, les hommes politiques de la région, c'est absolument inadmissible. Et puis en plus, vous là, qui êtes autour de la table, les citoyens comme moi, eh bien on se dit, bon, il y a des hommes politiques, ils font le job, on les laisse faire. Non, il faut qu'on arrive à un moment donné, par une obligation, à ce que les hommes politiques restent 2 mandats. Et après 2 mandats, ils s'en vont. Ce qui fait que chaque citoyen dira « Ah mais attends, la prochaine fois, c'est peut-être moi qui vais y aller, donc je vais peut-être m'intéresser. » Parce qu'en fait, le citoyen, il ne s'intéresse pas à ce que fait l'homme politique. Il le laisse faire. On a notre avis à donner, et si on a été plus nombreux à donner notre avis, je pense que... Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais ça veut dire qu'on peut donner notre avis, c'est ça la démocratie. Ou alors on ne vit pas en démocratie.
Peu de propositions de la Convention ont été retenues. Que pensez-vous de ce résultat ?
Je dirais 2 mots, irresponsable et surtout utopique. Quand on sait que 74% des membres de la convention ont jugé très insatisfaisant, à passable, la prise en compte de leurs propositions. Bon, ça veut dire que effectivement, le gouvernement, Macron s'est pris les pieds, comme je disais, dans le tapis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a voulu faire le malin, et du coup il a pensé que les Français étaient pas intelligents. Or les Français en majorité sont bien plus intelligents que lui, surtout quand on est en collectif. C'est pas un homme qui peut décider, mais une majorité qui peut décider et qui a des propositions.
Au début, le président de la République avait annoncé que toutes les mesures proposées seraient mises en place sans filtre, par texte de loi, décret ou référendum. Quelle est votre position sur cette promesse et le résultat réel ?
Je vais être très méchant. Cet homme-là est un financier sans avenir. C'est quelqu'un qui est diviseur, c'est quelqu'un qui est insultant et pour moi qui est imbu de lui-même. Il a toutes les qualités inverses de ce que doit être un président de la République. Vous avez entendu que dernièrement, il a insulté les gens non vaccinés. Qu'est-ce que c'est un pays dans lequel on essaye de séparer les gens au lieu de se regrouper et de bosser ensemble et d'accueillir tout le monde? Tout le monde a le droit de vivre dignement dans notre pays et c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, et on a un boulot énorme. Mais c'est à nous les responsables, c'est nous les citoyens, c'est nous qui les élisons, ces gens-là.
Localement, dans le Beaujolais, quelle est pour vous la proposition de la Convention qui devrait être mise en place de toute urgence et pourquoi ?
Alors, vous avez entendu, hein, j'ai plein de propositions à faire. Mais je pense que de renforcer les plans de mobilité en les rendant obligatoire dans toutes les entreprises, toutes les collectivités, et surtout développer massivement les transports en commun, ce qui n'a pas été fait, avec des mesures tarifaires qui soient attractives, quitte à ce que, comme dans certaines communes, ça soit gratuit, alors surtout quand vous avez des mesures tarifaires, il faut absolument que ça concurrence tous les autres modes de transport. Si vous prenez votre voiture, ça vous coûte moins cher de prendre votre bagnole que de prendre un transport en commun, vous allez prendre bonne bagnole. Donc il faut que ça soit des tarifs qui soient très concurrentiels des autres modes de déplacement. Il y a aussi quelque chose que moi j'ai mis en place à travers, j'ai mis en place avec d'autres à travers ce qu'on appelle une SAS. C'est éduquer les citoyens à parce que c'est la première chose par laquelle il faut commencer, à la sobriété énergétique. Et en plus, généraliser la production d'énergie renouvelable pour rendre le Beaujolais un territoire qu'on appelle les territoires TEPOS. Le territoire TEPOS, c'est un territoire à énergie positive. C'est-à-dire qu'on crée plus d'énergie qu'on en consomme. Et ça, c'est possible, mais c'est une volonté politique. Et tant que nos élus n'auront pas cette volonté-là politique, que ça soit le maire de Villefranche, le maire de Chazé-d'Azergues, tous les conseillers généraux, les députés et tout, on n'arrivera à rien. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu où des gens sont et des gens plus jeunes ont envie que ces choses-là changent et plus avoir tous ces gens qui ne font que cumuler des mandats, voilà.
Pensez-vous que les citoyens, au sens large, ont compris l'urgence environnementale ?
Non, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un territoire avec trop de conservatisme, une viticulture conventionnelle qui ne sort pas de ses erreurs. Et donc, ma conclusion, c'est que si on a prêché pendant 32 ans dans le désert, aujourd'hui, le soleil s'ouvre devant nous et je suis persuadé qu'avec, et je compte pas sur vous, la jeune génération, parce que ceux qui ont mis le bazar dans notre pays, c'est notre génération à nous, les 60, 70, moi j'ai 70 ans aujourd'hui, c'est les gens comme nous qui avons mis le bazar, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu voir la réalité, on est allé aux facilités, et il faut arrêter. Sauf que ça demande un changement fondamental, et ça demande à renverser la table, si on veut arriver à un moment donné à ce que cette planète, elle reste vivable. Et elle peut être vivable. Des expériences ont été faites dans certains coins sur la planète, où on a vu des insectes, où on a vu des animaux disparaître, et à partir du moment où l'homme n'intervient plus, bien, tout ça, ça peut se remettre en place. Tant que tout n'a pas complètement disparu. Donc, il est encore temps de sauver. Moi, pour moi, il y a 30 ans qu'il est en temps de sauver, mais on l'a pas voulu le faire. Eh ben, il faudra bien le faire un jour ou l'autre.
Merci à vous pour ce temps accordé. Pouvez-vous laisser des contacts si nos auditeurs veulent vous rencontrer ?
Oui, alors sur la région de Chazé-d'Azergues, donc les contacts c'est alterninfo@libertysurf.fr, libertysurf.fr, et sinon on a un site qui est alterninfo.org. Je vous rassure, on est 6, donc vous comprenez bien que ça peut être que modeste. On n'a pas la possibilité comme d'autres associations d'avoir des choses bien léchées, bien finies.
D'accord, merci encore et au revoir.
Au revoir, merci beaucoup à vous en tous les cas, et bon courage parce que vous avez du boulot devant vous.
Merci.
Radio 6-9,
tous ensemble pour le climat.
Pour illustrer le thème de la nature dans cette émission consacrée au climat, nous vous proposons d'écouter Henri Dès dans sa chanson « C'est le printemps ». Le printemps, c'est la saison où la nature se réveille à la vie et nous avons bien besoin que la nature puisse se réveiller encore. Bonne écoute.
C'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps, les arbres sont en couleur. Dans les nids, les petits, c'est cosy tout son cœur. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À 4 heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps qui vient juste après l'hiver. Le voilà, youplala, c'est joli pis c'est pas cher. Je suis content, c'est le printemps, c'est pour moi qu'elle butine. Les abeilles dans le soleil me préparent mes tartines. Le matin, je rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À 4 heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps, je compte les rossignols. Je suis gâté, c'est congé, je n'irai pas à l'école. Je suis content, c'est le printemps, pousse les petits bourgeons. Dans les prés, sur mon nez, pousse les petits boutons. Le matin, le rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai
avec pas plus de soucis. Et 4h, et 4h, ça rime avec un petit nouveau. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content dans les temps. Il y a de nouveau des grenouilles. Elles s'enlacent, elles s'embrassent. Il y en a même qui se tripatouillent. Je suis content, c'est le printemps. J'aurai bientôt une petite sœur. C'est maman, en chantant, qui me l'a dit tout à l'heure. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À 4h, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps.
Radio 6-9.
Tous ensemble pour le climat.
Bonjour, nous avons rencontré M. Redon et Muraille de l'association Alternativa de Villefranche-sur-Saône. Nous avons parlé de la convention citoyenne pour le climat, mais aussi de leur association et de ses actions. Ces associations mettent en œuvre de multiples actions citoyennes pour le sauvegarde de la planète. Et pour des débats d'idées, ils vont nous en donner quelques exemples.
Bonjour, nous recevons messieurs Redon et Muraille, deux représentants de l'association Alternativa de Villefranche, pour parler de la Convention citoyenne pour le climat.
Parlez-nous de l'association Alternativa. Comment est-elle organisée? Quels sont ses objectifs et ses actions?
Alors, Alternativa est un mouvement national pour le climat et la justice sociale, puisque les deux sont étroitement liés, et qui est né à Bayonne en 2013 de quelques militants locaux. Et il y a actuellement 150 organisations locales un peu partout en France et aussi à l'étranger. À Villefranche, mais aussi au niveau national, on a l'habitude de dire que nous travaillons sur deux jambes. Une jambe, donc, plus spécifiquement Alternativa, pour l'information, la sensibilisation et les propositions. Organisation d'événements, cinéma, marche climat, stand, notre émission en Radio Calade, et propositions auprès des élus locaux dans le cadre du plan climat territorial, donc sujet qui recoupe ceux de la Convention citoyenne pour le climat au niveau local. Donc ça, c'est la première jambe. Et la deuxième jambe, ça, c'est pour l'action. Donc, qui est sous l'égide d'un mouvement qui s'appelle ANV COP21, qui veut dire Action non violente COP21. Ce sont des actions de désobéissance civile au niveau local, dont le décrochage des portraits de Macron dans les mairies est l'exemple le plus connu, mais il y en a eu d'autres également.
Bien entendu, vous connaissez la Convention citoyenne pour le climat, mise en place par les présidents de la République et composée de 150 citoyens tirés au sort. Pour faire des propositions pour le climat, qu'avez-vous placé de sa mise en place et de son fonctionnement?
Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Faut juste replacer, placer la décision de cette Convention citoyenne pour le climat dans son contexte à l'époque, où ça venait après une année de mouvement de Gilets jaunes et tout ce qui était en suivi. Donc, il y a eu ensuite un grand débat organisé par la présidence de la République, bon, qui n'a pas donné grand-chose. Donc tout ça, c'était une troisième proposition, en fait. Ça nous incitait pas à examiner, je dirais, ce projet sous un œil très, très favorable. Voilà. Et puis, bon, on s'est quand même renseigné, on a regardé et on a vu quand même que bon, c'était l'organisation, bon, se faisait de façon assez cohérente, assez solide. Il y avait un conseil de surveillance, il y avait des garants, ça se passait sous l'égide du conseil économique, social et environnemental, etc. Donc bon, petit à petit, bon, on s'est rendu compte que bon, ça avait l'air sérieux. Donc on s'est dit bon, ok, on va regarder ça. Bon, on reste un peu un peu en retrait, mais on regarde quand même. Donc au début, on était très dubitatif, et ensuite on s'est dit pourquoi pas.
Donc pour vous, en quoi consiste ce genre de convention, et est-ce que vous pensez que c'est un bon outil contre le réchauffement climatique?
Alors, je dirais plutôt dérèglement climatique, hein, parce que le réchauffement climatique est une composante, et je rajouterais justice sociale, parce que ça faisait partie aussi de du deal, hein, et des objectifs. Alors, effectivement, on est tellement peu habitué en France à participer à ce qu'on nous demande notre avis, que le fait de créer une convention de ce type-là, en demandant l'avis des citoyens de façon constructive, bon, ça ne peut que répondre favorablement, en fait, hein, à ses attentes. Donc ça ne pouvait être que bon.
Les décisions de cette convention devaient être mises en place en totalité et sans modification par la loi ou référendum. Avant de parler de son résultat, pour vous, le référendum est-il un bon outil et sous quelle forme?
Le référendum est en soi un outil démocratique intéressant, car il permet de consulter directement les citoyens sur des questions précises. Donc, il constitue donc un procédé de démocratie directe qui contrebalance la démocratie représentative qui est habituellement à l'œuvre dans notre pays. Alors, il est évident qu'on ne peut pas interroger sans cesse les citoyens sur telle ou telle question par référendum, mais sur des questions vraiment essentielles, vraiment importantes, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment intéressant à utiliser. En France, malheureusement, nous n'avons pas cette culture, ni même celle de la concertation. Le constat est à peu près le même à tous les niveaux, depuis l'Élysée jusque localement dans les mairies.
Et auriez-vous fait d'autres propositions ? Et si oui, laquelle en priorité ?
Une proposition qui nous paraît absente, en fait, ou un sujet qui n'a pas été abordé, malheureusement, c'est le sujet du nucléaire, justement. Alors, même si, effectivement, à travers les propositions qui ont été faites, le nucléaire a été abordé indirectement par le biais de la promotion des énergies renouvelables, des énergies vertes, parce que le nucléaire n'est pas une énergie verte, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire. Donc, le nucléaire n'a pas été abordé, et c'est extrêmement dommage, parce que il y aurait eu déjà des choses à dire, ne serait-ce que sur la gestion des déchets. Bon, le projet CIGEO est un projet qui est fortement contesté, la gestion de l'eau également, où on va arriver dans une période où on va être en véritable tension sur l'eau, donc ça pose véritablement un problème. Et puis surtout, le fait qu'il n'y ait jamais eu en France de débat sur le nucléaire, qui est quand même un choix de société qui a été effectué il y a déjà 50 ans, même plus, et ça c'est extrêmement dommage. Donc là il y avait une occasion effectivement de mettre ça sur le tapis, d'en débattre de façon nationale, parce que ça implique la totalité de la population. Ça n'a pas été fait, c'est bien dommage.
Parmi les 149 propositions de la convention dans la loi climat qui a suivi, 13 ont été appliquées, 25 partiellement reprises, 45 seulement débattues et 66 laissées pour compte. Que pensez-vous de ce résultat contraire à l'annonciation initiale de la prise en compte sans filtre des propositions, et quelles en sont les raisons?
Merci pour cette question. Vous avez parfaitement raison de parler de résultats contraires à l'annonce initiale. Quand on regarde le résultat, effectivement, vous avez cité 13 appliqués. Bon, nous, on avait compté 15, mais bon, on va papiner. Ça fait de toute façon 90% des propositions qui n'ont pas été, qui ont été retoquées ou partiellement acceptées. C'est-à-dire 10% qui ont simplement été acceptées dans leur totalité. Et puis bon, il faut bien dire que ces 10% ne figurent pas parmi les propositions les plus importantes, enfin en tout cas qui avaient un impact des plus importants. Donc nous on considère que véritablement là, il s'agit d'une tromperie, d'une trahison, bon, finalement, donc une de plus, hein, parce que tout à l'heure dans l'historique, on évoquait les gilets jaunes après le grand débat, ben là c'est pareil, quoi. C'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Et c'est grave parce que tout à l'heure, Philippe évoquait effectivement la démocratie directe, enfin tout ce qu'il y avait autour de ça, donc il faisait naître quand même beaucoup d'espoir. Et ben, au contraire, c'est espoir déçu. Et une fois de plus, je veux dire, c'est vraiment une confiance qui est de plus en plus entamée des politiques par les habitants. Je veux dire, on sait qu'il y a une désaffection et on le constate à travers chaque élection successive depuis un moment. Il y a de plus en plus d'abstention. Les gens se déclarent de moins en moins motivés par la vie politique. Et ben là, voilà, il y avait une occasion de remonter ça, remettre ça sur les rails. C'est raté.
Quelles sont les propositions qui ont été rejetées et qui, pour vous, sont indispensables à la lutte efficace contre le réchauffement climatique?
Elles sont quasiment toutes. Il faut bien comprendre que sur ces 149 propositions, en fait, elles formaient un ensemble cohérent, un bloc qui devait être adopté dans son ensemble pour qu'il y ait vraiment pour que ça entraîne véritablement un changement de trajectoire dans notre société par rapport à la menace qui pèse, celle du réchauffement climatique. Et que c'est souvent d'ailleurs ces propositions, à partir de 5 thématiques qui avaient été retenues au départ, finalement elles étaient transversales, c'est-à-dire qu'une proposition
opposition dans une thématique se retrouvait dans l'autre, ou tout du moins avait son prolongement dans une autre thématique, et qu'en prendre une dans une thématique et puis pas l'autre dans l'autre thématique, finalement ça entraînait que les propositions retenues n'avaient plus de sens. Donc au-delà du pourcentage dérisoire de propositions retenues au final par le gouvernement, c'est bien l'ensemble qui devait être retenu sans filtre, comme l'avait dit au départ notre président Macron, pour que tout ceci ait un sens.
Pensez-vous que par des actions, il soit possible d'exiger la prise en compte de tout ou une partie des propositions rejetées ? Et lesquelles ?
Alors, lesquelles, ça va être difficile d'en parler en deux minutes, mais est-ce qu'il est possible effectivement d'exiger ou de participer d'une façon générale ? Bon, il y a on en voit deux possibilités. La première, bon, qui est à une échéance très courte, c'est au minimum la possibilité d'exprimer via le vote, puisque nous allons rentrer dans une période électorale assez intense, présidentielle et législative ensuite. Donc c'est l'occasion de manifester son choix et puis de s'informer aussi de tout le contexte qu'il y a autour. Et puis la deuxième, et ça c'est dans notre ADN à nous, Alternatiba, c'est la mobilisation citoyenne, en fait. C'est-à-dire que voter c'est bien, effectivement, et c'est nécessaire, mais agir également entre deux élections, si on n'est pas satisfait, oui, si on veut continuer à agir en tant que citoyen, c'est quand même mieux. Voilà. Donc la mobilisation citoyenne, elle est là, et à travers ça, on peut notamment au niveau local, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en termes climatiques qui se jouent au niveau local, on peut à travers ça, à travers un dialogue ou une pression plus accentuée auprès des élus ou des décideurs d'une façon générale, chaque citoyen peut et je dirais même doit doit agir en fait. Voilà.
À partir des propositions retenues, lesquelles doivent prioritairement être mises en place à niveau national ?
Toutes. Et il n'y en a que 15. Et malheureusement, ce ne sont pas les plus importantes. Quand on constate le détricotage opéré par le gouvernement, on a vraiment envie de s'exclamer « tout ça pour ça ». On va se répéter, mais il doit y avoir une immense frustration de la part des membres de la Convention citoyenne pour le climat.
Localement, comment pensez-vous accompagner la mise en place de ces propositions ?
Le boulot là maintenant, c'est de croiser ces propositions avec le plan climat territorial sur lequel on continue à travailler, et on espère pouvoir avancer localement effectivement assez vite.
Les participants de la Convention Mécontent, comme beaucoup d'autres associations et ONG du résultat, sont constitués en association et créent un site sansfiltre.les150.fr pour suivre la mise en place des décisions. Avez-vous des contacts avec eux, et si oui, qu'envisagez-vous ?
Alors nous n'avons pas de contact avec eux, non, pas à ce qui nous concerne, et je ne sais pas si en France il y a d'autres collectifs locaux qui ont des contacts. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, bon, le fait de croiser en fait les conclusions de la Convention avec le travail qu'on effectue sur le plan climat, bon, c'est une bonne réponse.
Souhaitez-vous évoquer un autre point sur ce thème ?
Simplement conclure en rappelant que la loi climat et résilience, qui a repris de la manière que l'on sait les travaux la Convention citoyenne pour le climat, a été promulguée en août 2021. Cette loi a fait en amont l'objet d'une étude d'impact diligentée par le gouvernement, où celui-ci reconnaît que le projet de loi ne permettra pas d'atteindre les objectifs climatiques de la France d'ici à 2030, mandat qui avait été assigné à la Convention citoyenne pour le climat.
Merci de toutes ces informations. Et comment peut-on contacter votre association ? Mail, site ?
Alors, je crois que les informations figureront sur la radio. Bon, on a tout, quoi. Instagram, Facebook, etc. Une adresse email qui est vitefranche69@alternatiba.eu. Voilà. Et puis, un site internet également, alternatiba.eu, où là, vous aurez vraiment toutes les informations nationales. Je précise juste que via l'adresse internet, il est possible, nous organisons régulièrement des réunions d'information, effectivement, pour ceux qui veulent rallier le mouvement et l'association. Donc le contact se prend par l'intermédiaire de cette adresse électronique. Voilà.
Encore merci et au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous.
Radio 6.9.
Tous ensemble pour le climat. Et maintenant, sur Radio 6.9, nous allons écouter La Corrida, une chanson française écrite et composée par Francis Cabrel. Cette chanson, sortie en 1994, fait partie de l'album Samedi soir sur Terre. La Corrida est un discours subtil et profond contre la tauromachie et la pratique de la corrida en France et en Espagne.
La corrida est vécue dans la chanson du côté du taureau qui en devient le personnage central et nous dévoile son incompréhension. Le respect du monde animal est un point important du respect de la planète. Donc, cette chanson a toute sa place dans notre émission.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux?
Radio 69.
Tous ensemble pour le climat. Bonjour, nous allons maintenant écouter l'interview d'Olivier Mandon, qui est un élu local de la mairie de Villefranche au poste d'adjoint au maire, en charge, entre autres, de la transition écologique et du développement durable. Deux domaines qui sont en complet raccord avec notre thématique de la Convention citoyenne pour le climat. Il va nous exposer son point de vue sur cette convention, mais aussi nous détailler comment ces préoccupations liées au climat sont prises en compte localement. Bonjour Olivier Mandon, vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler du réchauffement climatique et de la Convention citoyenne pour le climat. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, bonjour. Bah, écoutez, donc Olivier Mandon, donc, en fait, bah, j'ai 54 ans, je suis de la classe en 7. Je voulais le préciser, on en parle avant, c'est important, les classes à Villefranche. Alors évidemment, c'est pas le sujet, donc moi je suis élu à la ville de Villefranche depuis 14 ans. Je suis maire adjoint en charge de l'environnement, du développement durable, de la transition écologique, des espaces verts, de la propreté urbaine et de l'ensemble des risques majeurs. Et en 7, aussi, je suis élu à l'agglomération, je suis conseiller délégué en charge de l'environnement. Et puis, je suis premier vice-président du CITREVAL, donc qui est le syndicat de la collecte des déchets pour un territoire de près de 400 000 habitants. Voilà, et aussi, j'étais chef d'entreprise, j'y suis maintenant, mais je suis toujours mon activité professionnelle.
Dans votre activité professionnelle, existe-t-il des questions liées à l'environnement ?
Alors oui, en fait, puisque l'entreprise que j'ai dirigée et le lien que j'ai encore aujourd'hui, c'est en fait il y a une gestion de ressources déjà dans un premier temps, puisque en fait on dans le mot ressources il y a source, et en fait on gérait une source d'eau minérale, et puis ensuite on travaillait beaucoup avec l'ensemble d'une filière bio, puisque on a sur le catalogue on avait 500 produits bio, et puis le site qui est situé à Reims est en géothermie, c'est-à-dire qu'en fait on a un forage, et en fait j'essaie de professionnel. La sensibilité était là entre le bio, l'environnement, le bien-être des salariés, toute la partie sociale. Je donne un exemple, par exemple, tous les salariés ont la même mutuelle que des cadres. Il n'y a pas de différence entre les personnes. Voilà, je donne juste cet exemple pour vous donner quelques liens. Alors, même si là, je suis plus dans le développement durable, puisque l'action sociale n'est pas environnementale.
Comment gérez-vous votre vie professionnelle et votre investissement d'élu ?
Alors, votre question, elle est géniale, parce que en fait, pendant des années, cette question, pendant pratiquement 14 ans, je me la suis posée. Comment je vais faire pour pouvoir continuer à avoir un rythme aussi dense ? Et en fait, sans jeu de mots avec la ville d'Anse, puisque l'entreprise que je dirigeais était à Anse, oui, mon côté, en fait, j'ai dû prendre la décision d'arrêter, donc de cesser mon activité. Parce qu'en fait, c'était plus jouable. Alors, la technique que j'avais eue, c'était de compartimenter. C'est-à-dire, j'avais des tronçons de semaines où je coupais par demi-journée. Je disais, bah là, c'est la mairie, là, c'est l'agglomération, là, c'est le site Réval, là, c'est le travail, là, c'est l'usine, etc. Et à un moment, ma vraie passion, c'est ma mission d'élu. Donc, j'ai fait le choix d'arrêter ma mission chef d'entreprise et mon rôle de chef d'entreprise et de me consacrer totalement. Donc, votre question, elle est géniale parce que cette question, je me la suis posée et j'ai fait le choix de me concentrer que dans la vie publique.
Comment vous est venu cet intérêt et cette préoccupation pour l'environnement ? Quel en a été le déclencheur ?
Alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que mes parents, très tôt, étaient déjà écolos. Pas écolo militant à faire des manifestations, mais simplement dans des gestes du quotidien. On était une famille très économe, donc ils faisaient très attention à tout, donc les économies d'énergie, etc., la gestion. Et puis mon père a eu des soucis de santé, il est passé très vite à des méthodes un peu plus douces. Du coup, tout ce lien a entraîné que mon père a changé d'alimentation. Et on a eu un lien avec toute la filière bio. Donc mon père a ouvert un magasin bio quand j'avais 12 ans. Et puis voilà, j'ai eu cette sensibilité qui était là sur des produits différents, de la qualité, respecter le travail de chacun. Et la sensibilité, elle a été là, quoi. J'ai beaucoup de chance. Depuis l'âge de 7 ans, je suis baigné là-dedans, quoi.
Que pensez-vous du réchauffement climatique et quelles sont vos idées pour lutter contre ?
Alors moi, si vous voulez, le réchauffement climatique, je pense que c'est le fruit d'une évolution industrielle et technique énorme depuis, on va dire, depuis les deux guerres. En fait, les deux guerres, 14-18 et 39-45, ont entraîné des évolutions techniques très fortes. Et je pense qu'on a été au-delà de ce que la planète peut accepter. C'est-à-dire que, vous savez, on utilise plus que ce que la planète produit. Alors, je crois que c'est au mois de juillet, on a déjà utilisé pratiquement tout ce que la planète peut produire sur une année. Donc, à un moment, bah, oui, ça provoque. Moi, j'aime pas le mot réchauffement, je dis dérèglement climatique, qui peut entraîner du réchauffement, même peut-être du froid. Pour l'instant, c'est du réchauffement. Et donc pour ça, il faut lutter de partout. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, individuellement, on se pose la question, lorsqu'on fait quelque chose, un acte, est-ce que véritablement ça va pas avoir des conséquences ? Alors c'est facile à dire, après c'est compliqué au quotidien, c'est aussi les collectivités, c'est-à-dire que nous, collectivités, on représente 15% du PIB, donc des dépenses en France, on doit aussi faire très attention ce que l'on achète, d'où ça vient, pour limiter les déplacements, vous achetez des choses qui viennent, on est nombreux à acheter des produits qui viennent d'Asie ou des États-Unis, c'est bien dommage, parce que je pense que une des clés, c'est ça. Et puis bah, le quotidien, je crois beaucoup aux gestes du quotidien, moi. J'ai du mal aux grandes mesures, parce qu'on a du mal à imposer. En France, on est quand même vachement latin, et du coup, on a du mal à accepter des règles. Dès qu'on met trop de règles, on n'est pas d'accord. Le français, par principe, nous, c'est non. Puis pourquoi pas oui après ? Oui, mais pas tout de suite.
En tant qu'élu local, sur quel projet travaillez-vous en ce moment dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique ?
Alors pour vous répondre direct, véritablement, en ce moment, je travaille sur la végétalisation de la ville. Donc, lutter contre la chaleur, donc toutes les zones possibles. Alors, donc, première chose, végétalisation, je suis en train de travailler sur la végétalisation de l'ensemble des cours d'école de la ville de Villefranche. On a un plan de planter 1000 arbres. Donc, on est en train de faire 200 arbres chaque année, donc pour pouvoir donner plus de fraîcheur. Puis après, il y a un travail complet, mais toute la partie tri, donc qui va éviter de chauffer des déchets. Et donc, évidemment, éviter d'utiliser les usines d'incinération, même si la chance qu'on a à Villefranche, c'est qu'on a une usine d'incinération avec un réseau de chaleur. Ça veut dire qu'un réseau de chaleur, c'est un circuit d'eau chaude qui passe dans Villefranche, qui permet de chauffer 3000 logements. Donc, c'est une seule chaudière pour 3000 logements. Je ne sais pas si vous comparez par rapport à... Il pourrait y avoir 3000 points de chauffage. En fait, il n'y en a qu'un seul. Donc ça, c'est véritablement une avancée importante. Donc, on y travaille pour l'agrandir. On devrait améliorer ce réseau de chaleur en performance et aussi en taille, avec à peu près 60% de plus de possibilités d'accès pour les pour les immeubles. Puis après, en permanence, je travaille au quotidien sur les émissions de la ville, c'est-à-dire sur nos véhicules, sur tout ce qui est fait dans la ville. On est en permanence en travail sur le développement durable. Alors là, je reste très ville parce que c'est l'action la plus forte. Le réseau de chaleur, c'est le site Réval. Et puis sur l'agglomération, je travaille en ce moment énormément sur les espaces naturels sensibles pour protéger le périmètre extérieur autour de Villefranche pour permettre d'avoir des zones vertes bien validées et bien verrouillées.
Vous êtes intéressé à la Convention citoyenne pour le climat. Qu'avez-vous pensé de la mise en place et de son fonctionnement ?
Alors, je trouve que le principe était bon, parce que ça permettait d'avoir une grande concertation, puisqu'il y avait des personnes un petit peu de tout horizon. Sauf que la concertation, doublement en ce moment, elle est un petit peu compliquée avec la période que l'on vit. Et j'ai trouvé que le système était bien. Moi, ça m'a convenu jusqu'à des gens qui ont critiqué. Moi, je trouve qu'elle a eu... elle a existé et elle a permis d'avoir des retours et plein de bonnes idées qui ont été évoquées. Donc je trouve que c'était une bonne solution, même si derrière, je pense qu'il faudra aller plus loin.
Quel est votre avis général sur les 149 propositions de la Convention ?
Ça continue dans ce que j'ai pu dire avant, mais je pense qu'il y a des très bonnes actions. Je pense que c'est compliqué à mettre en place, puisqu'on sait que tout n'a pas été accepté. Mais pour lutter contre le réchauffement climatique, véritablement, il faudra aller plus loin. Il faudra vraiment, à un moment, prendre des mesures qui seront désagréables et il faudra les imposer parce qu'on ne pourra pas tout le temps de nous-mêmes obtenir des gestes de tout le monde. Donc je trouve que les 149 propositions, elles sont intéressantes. Je vous dis, la difficulté, c'est de pouvoir les mettre en place.
Ces propositions devaient être mises en place sans filtre. Or, elles n'ont pas été retenues. Moins de la moitié. Quelle est votre position sur ce point ?
Je peux comprendre que lorsque le gouvernement a reçu toutes ces propositions, qu'il a pas pu tout valider. Moi, je crois que oui, il faudra aller plus loin sur certains points. Je pense qu'il y a certains points qu'ils n'ont pas gardés et qu'il fallait aller plus loin. Je vous dirai tout à l'heure peut-être lequel. Mais surtout, ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux quand même qu'il y ait quelques points de retenue plutôt que rien ne soit fait. Des fois, des grands projets font que... ou des grandes ambitions, on n'arrive pas à les atteindre. Vous voyez, il y a eu des Grenelles, il y a eu le Grenelle 1, le Grenelle 2, et en fait, il ne s'est pas passé tant de choses que ça. Donc moi, je pense que c'est bien aussi. Alors, on dit que c'est du saupoudrage, mais je pense que plein de petites actions qu'on est certain de pouvoir mettre en place, parce qu'il faut aussi que ça puisse continuer et faire fonctionner au quotidien. Après, est-ce que c'est suffisant pour le climat ? Non. Mais je pense que pour conserver un espèce d'habitude, parce que c'est ça, enfin, puis en France, on est quand même rempli de traditions. Donc, si vous voulez vraiment faire frapper très fort, ça va bouleverser tout le monde. Je pense que ça passera pas, quoi. Oui.
Parmi les propositions non retenues, en voyez-vous une qui aurait été prise en compte ?
Pour moi, celle qui n'a pas été prise et que je trouve dommage, c'est la baisse de la vitesse sur les autoroutes. Pourquoi ? Parce que je considère qu'aujourd'hui, moi, je fais l'effort. Je fais partie de ceux qui ont déjà été attrapés par les motards il y a de nombreuses années parce que je roulais trop vite sur l'autoroute, parce que c'était beaucoup moins contrôlé qu'aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a non seulement beaucoup moins de morts, donc au niveau sécuritaire, le fait qu'il y ait eu en place tout un système de régulation de la vitesse, mais surtout, on voit bien que votre véhicule, lorsque vous roulez à 130 km/h, mettons, vous êtes à 7 litres, alors je vais donner des chiffres à vue de nez, mais et vous allez gagner peut-être 1 litre si vous roulez à 110. Donc je pense que ça répercuté sur beaucoup de véhicules, ça peut être important. Donc voilà, il y aurait pu avoir peut-être pas d'aller à 110 sur l'autoroute, mais déjà de descendre à 120. Je pense qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont à 120 et ça aurait pas été gênant à ce point-là.
Localement, comment envisagez-vous la mise en place des propositions retenues ?
Alors moi, figurez-vous que par rapport aux propositions retenues, on avait déjà un petit peu anticipé à Villefranche. C'est-à-dire que depuis 2009, on a mis en place un plan environnement. Donc là, je parle ville, hein, avec une centaine d'engagements maintenant, puisqu'on était passé sur un agenda 21 devenu un agenda 2030. Donc des engagements complets sur l'ensemble de l'isolation des bâtiments, alors je parle de ceux de la ville, de nos dépenses, de la mise en place d'un rucher municipal. C'est vraiment travailler sur la biodiversité. Vous voyez, on a un panel complet et je pense qu'on n'a pas attendu, si vous voulez, les propositions. On était là bien avant et puis on a la chance d'avoir... vous savez, on a voulu se comparer à d'autres collectivités. Et donc on a les rubans du développement durable qui nous ont confirmé, on a une Marianne d'or du développement durable qui ont confirmé, et puis aussi on est aujourd'hui, vous avez la ville de Villefranche a trois fleurs, Trois fleurs, c'est pas le fleurissement, c'est le fleurissement, mais en durable. Donc on a trois fleurs, on est même annoncé, même pour aller plus haut, on verra bien. Et puis en propreté urbaine aussi, on travaille aussi avec du développement durable. Et c'est-à-dire que la ville nettoyée avec des moyens le plus naturel possible. Ce qui fait qu'on a aussi ce qu'on appelle trois étoiles. Alors c'est pas comme au ski, mais c'est trois étoiles en propreté urbaine. Donc notre engagement est très fort depuis bien longtemps. On n'a pas attendu, si vous voulez, la convention citoyenne. On avait, nous, travaillé avant. On était déjà prêts.
Comment la population locale peut-elle se renseigner sur ces initiatives et y contribuer?
Alors, je vais donner mon numéro de téléphone, comme ça tout le monde... Non, je plaisante, je ne vais pas le donner. Non, en fait, c'est simple. Hein. Vous avez alors premier moyen pour communiquer, qui a été créé maintenant il y a un grand moment, c'est la fête de l'environnement, qui dure sur une semaine ou plusieurs semaines. Elle se passait place des Arts. Après, vous avez tous les sites. Aujourd'hui, vous avez le site de la ville, le site de l'aglo, le site du Citreval, qui communique sur tout ce qui est mis en place, sur la façon qu'on peut se renseigner sur ce que l'on fait. Vous avez en ce moment, depuis plusieurs jours, vous avez ce que je parlais tout à l'heure du tri. Vous avez un message qui passe depuis 2-3 jours sur le fait qu'il faut changer notre façon que l'on trie les déchets. Et après, il y a tout le lien avec les collèges, avec les lycées. Pour preuve à l'endroit et ce qu'on est en train de faire en ce moment avec vous. Donc moi, je suis énormément dans l'échange. On avait mis en place un système pour les écoles primaires. On va changer, qui s'appelait les écrans verts. Donc les enfants qui étaient en école primaire à Villefranche, les classes de CM1 et CM2 faisaient un film publicitaire, comme un film publicitaire, un film documentaire, mais la taille d'une publicité, où ils nous passaient tous leurs messages, vous voyez, et ça permettait de relayer. Donc l'échange, il se fait comme ça, et puis après, j'essaye au maximum de faire de la concertation. Bon, je vous avoue que j'ai plus les mains libres comme avant, avec le Covid. Regardez, on est en train de faire cette interview avec des masques. On nous aurait dit ça il y a 2 ans, on aurait dit, mais ils sont fous, quoi. On a l'impression qu'on va se faire, opérer, là.
Donc pour finir, merci beaucoup, monsieur Mandon.
Je vous en prie.
De toutes ces informations et de nous avoir accordé votre temps. Et au revoir et merci.
Merci beaucoup, merci à vous.
Radio 6-9.
Tous ensemble pour le climat.
David Keller a écrit les paroles de la musique de la chanson Sauver la Terre. Avec la chorale des élèves du collège Gustave Flaubert de Paris, dans le 13e arrondissement, il a réalisé un enregistrement de cette chanson que l'on peut découvrir sur YouTube. L'objectif de cette chanson est de sauver la planète et de témoigner pour la paix. Nous vous laissons la découvrir.
Pourquoi on mène ce combat contre cette folie? On a choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie. Les oiseaux le veulent aussi.
Sauver la terre et sauver le vent. Sauver les mères pour les enfants. Ne plus se taire ni faire semblant.
Sauver la terre.
Voilà ce qu'espèrent les enfants.
Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants.
On a tous envie de voir dans leurs yeux naître l'espoir d'un avenir meilleur. Offrons-leur des souvenirs et pas ce qu'il y a de pire. C'est le moment pour les enfants.
Radio 6-9.
Tous ensemble pour le climat.
Alors, pour clore cette émission sur la Convention citoyenne pour le climat, nous avons rapidement essayé de tirer un bilan de cette convention et de vous présenter les suites possibles.
Donc, le 22 juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat a mise en place par le président de la République et son gouvernement, composé de 150 citoyen tiré au sort et représentatif de la population française, a donc proposé 149 mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en France, pour lutter contre le dérèglement climatique et ses conséquences néfastes pour la planète.
Après les décisions prises par le gouvernement concernant leurs propositions, les membres de la Convention se sont réunis courant en février 2021 pour une ultime séance et ont exprimé leur avis sur les réponses apportées par le gouvernement à leurs propositions. Lors de cette réunion, ils ont dressé un bilan en demi-teinte de la réaction du gouvernement en jugeant ses réponses insuffisantes et parcellaires.
Ils se disent déçus de voir une grande partie de leurs travaux délaissés. Le récent projet de la loi climat et résilience, en particulier, leur paraît confus et trop peu ambitieux par rapport à leurs travaux et propositions.
Ils redoutent l'influence des lobbies sur les décisions gouvernementales. Ils saluent néanmoins l'idée et la forme de cette convention qui a contribué à médiatiser largement les débats sur les climats, mais aussi à relayer le travail des organisations et des associations qui agissent dans ce domaine.
Ils considèrent la convention comme une superbe expérience humaine et démocratique. Ils espèrent que ce processus servira de modèle pour une participation citoyenne à tout niveau, local, national, international.
Radio 9.
Tous ensemble pour le climat.
Chers auditeurs et auditrices, notre émission se termine. C'était donc Tous ensemble pour le climat sur Radio 6-9, une émission proposée par la classe de seconde de Monsieur Benjamin Méjean du centre scolaire Notre-Dame de Villefranche.
Nous remercions le lycée et notre professeur de nous avoir permis cette expérience, mais aussi l'équipe de Radio Calade pour nous avoir fait découvrir le monde de la radio, et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien à ce projet.
Mais encore, tous nos invités et leur bienveillance. Et enfin, vous, chers auditeurs, pour votre bienveillante écoute. Vous pourrez retrouver en podcast cette émission sur le site de Radio Calade, radio-calade.fr et sur les réseaux sociaux de la radio.
Encore merci, bonne journée.
Au revoir.
Radio 6-9.
Tous ensemble pour le climat.
Tous ensemble pour le climat. Calade.